Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, un bain de foule pour Emmanuel Macron. C'était devenu rare à la veille de l'acte 10 des Gilets jaunes. Le président dans un village du Lot avant le débat avec les maires à Souillac cet après-midi. Cyril Graziani nous raconte dans un instant. Le débat est donc lancé dans toute la France. Comment ça marche ce débat? Mathilde Dehimy l'a testé pour nous. Et Élodie Forêt nous dira quel rôle exactement joueront les garants qui ont été nommés hier. Le gouvernement populiste italien tient ses promesses. Revenu citoyen, abaissement de 5 ans de l'âge de la retraite, les décrets-lois sont adoptés. À quel prix? Nous verrons cela avec Mathilde Imberti à Rome. Cela vous semblera incroyable, des milliers d'œuvres d'art disparaissent au fil des années des institutions françaises, Élysée, ministères, ambassades, musées. Comment expliquer cela? Un nouveau rapport sur ce thème est publié. Son auteur Jacques Sallois est notre invité en studio. Dans cette édition encore, attaque contre l'école de police de Bogota en Colombie. De longues heures de plongée avec un requin blanc. Comment donner le goût de la lecture aux enfants? Silence, on lit. Un quart d'heure où tout le monde s'arrête. Les élèves comme les profs dans un établissement de Brive. La défaite piteuse de Caroline Garcia à l'Open d'Australie de tennis. Il n'y a plus de Françaises en lice. Federer s'est facilement qualifié. Et puis la météo. Bonjour Élodie Callac.
Bonjour à tous.
Météo France parle d'une nouvelle perturbation sur l'ouest.
Oui, alors de la Bretagne au sud-ouest, elle n'apporte que des nuages, mais sur le Finistère, sur le Pays Basque, un petit peu de pluie. Ailleurs, des moments de soleil bien appréciables. Température en baisse, souvent 1 à 5 degrés, jusqu'à 9 près de l'océan et 15 pour le sud-est.
Élodie Callac, on vous retrouve plus en détail tout à l'heure, le 13h. Vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
À chaque déplacement d'Emmanuel Macron, ses visites surprises, artifices de communication et moyens jusque-là d'éviter les manifestants, voire la foule. Avant d'aller débattre avec les maires d'Occitanie à Souillac, dans le Lot, à partir de 15h, le président s'est arrêté à Saint-Sosie, village de moins de 500 habitants. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Vous suivez le déplacement présidentiel pour France Inter. Et ce qui était devenu rare, le président est allé au contact de la population.
Oui, on nous a embarqué ce matin dans un bus. C'est un peu voyage en terre inconnue en ce moment, les déplacements avec l'Elysée. On vous embarque dans un bus et vous ne savez pas où vous allez. Ce matin, c'était donc visite surprise dans une école de Saint-Sosie à quelques kilomètres de Souillac. Il est attendu cet après-midi pour son deuxième round du grand débat. Saint-Sosie a une particularité, il y a un regroupement d'écoles. 84 enfants venus de 4 communes aux alentours se sont entendus pour ouvrir une structure flambant neuve. À son arrivée, Emmanuel Macron rencontre les maternelles. Vous connaissez le monsieur, demande l'ATSEM. Oui, c'est le monsieur au gilet jaune, susurre un enfant. Quelques sourires mi-gênés, mi-amusés. Le chef de l'État a passé une heure avec eux, a fait des cours de calcul, une petite tête à la cantine avec que des produits locaux, faut le signaler. À sa sortie, quelques retraités l'attendent pour discuter de leur perte d'argent. Ils s'improvisent conseiller retraite, essayent de comprendre pourquoi cet homme a perdu du pouvoir d'achat, récupère le justificatif et promet qu'il résoudra son problème. Un autre venu tout droit de Tulle, tiens, se plaint de la TVA. Nous, on veut du concret, pas de la flûte. Au plus près sur le terrain, Emmanuel Macron, les habitants ne sont pas agressifs. Au contraire, la discussion est plutôt franche. C'est bien ce que vous faites, lui glisse un homme. Il faut venir voir la France d'en bas.
Merci Cyril Graziani. Et donc le débat avec les maires d'Occitanie cet après-midi à Souillac. Est-ce qu'il durera près de 7 heures comme le précédent? On verra cela. En tout cas, ça y est, le grand débat dans toute la France a bel et bien commencé. 410 événements recensés ce matin sur le site granddebat.fr. Comment organiser les choses? J'ai testé pour vous. C'est notre rendez-vous du vendredi cette semaine. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Bruno.
Vous avez testé ce grand débat national à Saint-Briac-sur-Mer en Ille-et-Vilaine, Mathilde.
Avec un maire sans étiquette et enthousiaste à l'idée de voir ses concitoyens débattre, il est conseillé de recenser sa réunion sur le site officiel granddebat.fr, un site mis en ligne tard avant-hier, peu après minuit, et c'est peu dire que Vincent Dambi-Wilkes attendait ça.
Vous l'avez fait à quelle heure?
Je l'ai fait à minuit 10, ouais. On a appelé la sous-préfecture, mais rien n'était disponible, ni pour eux, ni pour les communes, ni pour les habitants. Ça marchait pas tout ça. Et paf, ça a marché cette nuit. Donc voilà, si on n'avait pas eu ça, on l'aurait fait de toute façon.
À disposition sur ce site, une charte de bonne conduite, très importante, dit le maire, et des fiches par thème avec des questions. Pas très utile, juge-t-il alors, pour un débat public.
Oui, sauf que monsieur le maire a changé d'avis, Mathilde. Il a finalement imprimé tout le kit pour ses concitoyens.
La nuit porte conseil, dit-on Bruno. Il a aussi chamboulé l'ordre du jour en accord avec ses élus.
Bon, donc on modifie notre ordre de priorité. On retient l'ordre qui est dans la lettre.
Oui, c'est vrai.
On ne traitera que ça, c'est possible.
C'est
ah non, les quatre thèmes, à mon avis, on ne les traitera pas. Si ça dure un petit peu, c'est bien, mais je pense qu'il ne faut pas que ça dure trop et on se donne rendez-vous la semaine d'après. Est-ce qu'on se cale là-dessus?
dans la salle du presbytère, on déménage.
On fait projection, donc on met les gens en face conférence. Là, cette fois-ci, le maire en fait veut faire deux rangées face à face pour que les gens en fait puissent débattre entre eux.
Tout a son importance, les piles pour les micros, le pot à la fin. À l'heure dite, la salle déborde, on se presse, le maire se lance. La parole circule presque 2 heures, réflexion principalement sur une meilleure répartition des impôts des particuliers et des entreprises.
Et les élus doivent rester neutres, Mathilde Dehimi, c'est un débat entre citoyens. Le maire se permet juste de recentrer les échanges.
Difficile de rester dans les cases préétablies. On parle aussi de culture, de transition écologique. Mais Vincent Denby-Wilkes ne regrette pas son ordre du jour.
En dernier cours, juste avant la réunion, vous avez vu, on a changé cette idée démarrée par la citoyenneté. On s'est dit, faisons ce sujet de la fiscalité, qui est justement très ouvert et qui permet finalement à chacun de s'exprimer sur sa vie au quotidien. Donc moi je pense que c'était finalement pas mal, il y a un véritable besoin et donc ça vaut le coup de le faire et de le poursuivre.
Alors qu'il est Bruno, les scribes désignés hier soir suent sur leur copie la synthèse, elle sera à disposition des habitants pour relecture avant sa mise en ligne jusqu'au prochain débat dans une semaine.
Merci Mathilde Dehimi, le débat comment ça marche. Autre pièce au dossier, on connaît depuis hier le nom des garants censés assurer l'indépendance, la bonne tenue des échanges. Il y a le politologue Pascal Perrineau, le juriste Guy Canivet, Isabelle Falque-Pierrotin qui dirige la CNIL, Commission Informatique et Liberté, l'ancien patron de la Poste Jean-Paul Bailly et puis Nadia Bellaoui qui est secrétaire générale de la Ligue de l'Enseignement. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
En quoi exactement va consister leur tâche?
Alors être garant, ça va être un travail à plein temps avec a priori un bureau situé au ministère de la Transition écologique et une petite équipe qui leur sera dédiée pour gérer notamment la logistique car ces garants vont évidemment beaucoup se promener. C'est en tout cas comme ça que le politologue Pascal Perrineau, choisi par Gérard Larcher, imagine pour l'instant sa mission. Dans un premier temps, aller de débat en débat, des réunions diverses, certaines avec des élus, certaines sans, des débats organisés par des associations, des syndicats, des comités de quartier, bref, essayer d'en voir toutes les formes, tous les aspects. Deuxième phase, fin février et non la moindre, observer quels thèmes seront sélectionnés, comment les échanges vont remonter. Tout ce qui sera décidé devra être validé par les garants, précise l'entourage d'Emmanuel Wargon, l'une des ministres chargées de l'animation. Des garants qui vont se rencontrer pour la première fois cet après-midi à Matignon avec Édouard Philippe pour échanger leurs idées.
Qui sont les 5 garants du grand débat? Vous retrouvez leur portrait sur franceinter.fr et demain l'acte 10, nouvelle série de manifestations des Gilets jaunes. On verra l'ampleur de la mobilisation et s'il y a ou non des violences. En tout cas, l'affaire Benalla n'est toujours pas close, même après plus de 2 mois de manifestation des Gilets jaunes. Comment se fait-il qu'Alexandre Benalla ait été en possession de 4 passeports, qu'il ait utilisé ces 2 passeports diplomatiques à 20 reprises après son licenciement de l'Élysée? A-t-il obtenu, avec une fausse déclaration, l'un de ses documents? Voilà quelques questions qui n'intéressent pas seulement les médias et la commission d'enquête du Sénat, mais aussi la justice désormais. Bonjour Laurie Licarive.
Bonjour.
Après avoir été en garde à vue, Alexandre Benalla devrait être présenté à un juge d'instruction.
Oui, pour être mis en examen, sans doute pour la 3e fois en 6 mois. Puisqu'on le rappelle, l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron est déjà poursuivi pour des violences le 1er mai à Paris, à la fois place de la Comtesse Carpe dans le Jardin des Plantes. Ici, c'est un nouveau volet judiciaire autour de ses passeports. Si mise en examen, il y a l'une des questions qui se pose, c'est celle du contrôle judiciaire d'Alexandre Benalla. La justice pourrait décider de le durcir. Par exemple, c'est une hypothèse en lui interdisant de quitter le territoire français, sachant que jusqu'ici, ce qui lui est interdit, c'est d'exercer une mission de service public ou une fonction publique et de détenir une arme. À noter enfin qu'une mise en examen risque de rendre l'exercice un peu plus délicat lundi pour les sénateurs qui l'interrogent. Ils n'ont pas le droit d'empiéter sur le périmètre de l'information judiciaire ouverte ce matin. Ils orienteront donc soigneusement leurs questions sur les éventuels manquements du côté de l'Élysée ou du Quai d'Orsay. Pourquoi Alexandre Benalla n'a-t-il pas rendu ses passeports et son téléphone crypté? En revanche, l'ex-chargé de mission pourrait refuser de répondre en invoquant le secret de l'instruction.
Merci Laurélie Carive. Nous sommes très inquiets face à l'hypothèse d'un Brexit dur. C'est ce que disait hier la porte-parole du MEDEF en France. Et encore, les grandes entreprises sont sans doute les mieux armées pour affronter le défi économique et juridique que représenterait une sortie sèche du Royaume-Uni de l'Union européenne. Parmi les secteurs économiques qui auraient beaucoup à perdre, la pêche. Écoutez Hubert Carré, il est le directeur général du Comité national de la pêche.
On peut estimer qu'à 50%, la pêche française qui est basée entre Dunkerque et la Bretagne pêche dans les eaux britanniques. puisqu'on a 400 navires hein, qui sont dépendants de l'accès aux eaux britanniques et au droit de pêcher dans les eaux britanniques. Et puis on a aussi tous les secteurs du marécage et de la transformation à terre. Donc c'est une inquiétude, et c'est une inquiétude dont on a fait part dès le lendemain du vote du Brexit. Mmh. Ça fait 100 000 tonnes à peu près de poissons qu'on ne pourrait plus pêcher dans les eaux britanniques. Les bateaux ne pourront pas se redéployer parce que déjà c'est un petit peu difficile. Vous voyez bien dans le détroit du Pas-de-Calais, il y a quand même peu de place, et donc les bateaux devraient rester à quai par faute de pouvoir se redéployer dans d'autres zones qui sont déjà occupées par d'autres navires. On souhaite tous au niveau européen, on souhaite avoir des garanties le plus rapidement possible.
Un propos recueilli par Frédéric Carbone. Comment éviter que la peste porcine qui sévit en Belgique ne touche la France? Une clôture va être construite près de la zone blanche qui a été déterminée. Clôture construite d'ici 8 à 10 jours. Un peu plus d'un an après la mort de Naomi Musenga, cette jeune femme qui n'avait pas été prise au sérieux par le SAMU de Strasbourg. Une réforme, confirmation de la ministre de la Santé, une formation d'un an à partir du mois de septembre pour les assistants de régulation médicale, formation diplômante. Toujours pas de numéro unique ou en tout cas simplifié entre le SAMU, les pompiers ou les numéros européens, mais on y travaille, assure Agnès Buzyn.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
En Italie, le gouvernement peut affirmer qu'il tient ses promesses. Deux décrets-lois adoptés hier soir, entrée en vigueur du revenu citoyen et abaissement de 5 ans de l'âge de la retraite. Nous sommes en train de fonder un nouvel État-providence, dit carrément le vice-premier ministre Luigi Di Maio.
C'est un jour historique. Le Conseil des ministres donne naissance à un nouveau welfare state en Italie.
Oggi nasce
un nouveau welfare state qui aide les personnes en difficulté et les place au centre d'une révolution du monde du travail. Enfin, les citoyens qui pendant des années ont été ignorés et pressés comme des citrons par les précédents gouvernements, ces personnes reprennent une place centrale.
Alors dans le détail, à quoi ressemblent ces deux réformes? France Inter à Rome, Mathilde Imberti.
La drôle d'alliance entre les 5 étoiles et la Ligue tient ses promesses. C'est le premier constat unanime ce midi. La possibilité de partir à 62 ans à la retraite, contre 67 auparavant, et surtout le revenu de citoyenneté, cheval de bataille des 5 étoiles. Certes, les sommes allouées ont été revues à la baisse après le feuilleton avec Bruxelles sur le budget, mais in fine, l'Italie met en place ce dispositif totalement novateur. Il varie de 40 à 780 euros pour une personne seule, jusqu'à 1300 pour une famille avec deux enfants. Mesure d'assistanat? Non. Mesure de retour à l'emploi, plaide des 5 étoiles, qui s'accompagne de normes dite anti-canapé. Le chômeur recevra certains revenus, mais aussi des offres de travail, et à la troisième offre rejetée, il sera exclu. C'est là que le bât blesse, commentent les observateurs les plus critiques. Comment assurer des contrôles rigoureux dans un pays où l'on joue si facilement à cache-cache avec les institutions, et surtout où trouver du travail pour tout le monde? L'Italie et sa modeste croissance comptent sur une hausse du pouvoir d'achat pour se relancer. Un pari gagné d'avance, certainement pas, mais les comptes seront faits dans plusieurs mois, après les élections européennes dans tous les cas, lors desquelles la Ligue, comme les 5 étoiles, compte marquer des points auréolé de ces mesures sociales inédites. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
L'homme fort de ce gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, tiendra bientôt meeting commun avec Marine Le Pen dans le cadre de la campagne des européennes. C'est ce qu'annonce la Française. Ce sera en février en Italie. Pour ces européennes, toujours en Italie, le candidat du renouvellement à 81 ans, Silvio Berlusconi, vient d'annoncer qu'il se présentait. Il le fait, dit-il, par sens des responsabilités. Il manque en Europe une vision profonde de l'avenir. On pensait que la Colombie était sortie des années de grandes violences après la paix avec les FARC. Un attentat remet cela en cause. Attaque contre l'école de police de Bogota. 21 morts, 68 blessés. C'est le bilan le plus lourd depuis plus de 15 ans, Olivier Poujade.
Le premier attentat depuis 2003, un mode opératoire inédit dans l'histoire colombienne, un homme, une voiture piégée, chargée d'une vingtaine de kilos d'explosifs. Voilà pourquoi la Colombie se retrouve aujourd'hui dans un tel état de choc. Ensuite, il y a la cible, de jeunes agents des forces publiques, c'est autrement dit l'État qui se retrouve visé. Pas de revendications, mais de nombreuses pistes. Des groupes dissidents, des FARC, n'ayant pas signé les accords de paix, le clan du Golfe, cartel exportateur de cocaïne. Les autorités penchent plutôt pour l'ELN, l'armée de libération Libération Nationale, groupe avec lequel les négociations de paix sont aujourd'hui au point mort. Mais d'après Jacobo Grajales, maître de conférence à l'Université de Lille, peu importe le commanditaire, les conséquences politiques de l'attentat seront les mêmes.
C'est préoccupant parce que cet attentat pourrait être utilisé par une partie de la droite conservatrice colombienne pour soutenir des mesures sécuritaires allant dans le sens d'une limitation des droits individuels, des choses qu'on a connues déjà en Colombie et qui sont tout à fait dans l'agenda politique de ces secteurs-là.
Une aile radicale de la scène politique colombienne considère que les capacités opérationnelles de l'armée ont été fragilisées ces dernières années et prône un retour à la méthode forte contre les derniers groupes de guérilla encore actifs.
Pas de liberté pour l'instant pour Laurent Gbagbo. Il a été acquitté mardi d'accusations de crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale, mais il reste en détention jusqu'à une nouvelle audience le 1er février. Une date pour l'élection présidentielle en Algérie, ce sera le 18 avril prochain. Est-ce que Abdelaziz Bouteflika, à bout de force, se présentera ? Il n'a pas fait part pour l'instant de ses intentions. De la terrible galerie d'assassins qui ont marqué nos vies ces dernières années. Mohamed Merah, les frères Kouachi et autres terroristes, c'est l'un des très rares qui a été capturé vivant. Le procès de Mehdi Nemmouche se poursuit aux assises de Bruxelles. Le Français est accusé de 4 assassinats en mai 2014 au musée juif de la capitale belge. Angélique Boin, vous avez suivi l'audience ce matin pour France Inter. Nemmouche, face aux familles de victimes et aux témoins de cet attentat, audience très dense en émotion, Angélique.
Oui, avec notamment l'audition de la mère du jeune gardien du musée, Alexandre de Trens. Trens, 26 ans. Je suis comme une maman à qui on a coupé les ailes. Assise, les mains jointes, Annie regarde la présidente dans les yeux quand elle évoque son fils tué d'une balle dans la tête. Alexandre était l'avant-dernier de ses 8 enfants. C'était un garçon très charmant, gentil, travailleur et passionné d'histoire. On s'appelait tous les jours. Ce soir-là, on devait souper ensemble. Il n'est jamais rentré. Le ton est digne, pas de larmes. Annie Adam, 68 ans, un mari très absent et belge d'origine marocaine. À son arrivée à Bruxelles, elle a européanisé son nom. Par décret royal, dit-elle, par souci d'intégration. La religion à la maison, lui demande la présidente du tribunal, c'est personnel. Il y avait des juifs et des musulmans dans son village natal où repose Alexandre. J'ai élevé mes enfants dans l'humanisme, rien d'autre, insiste-t-elle. Grièvement blessé le jour de l'attaque, le jeune employé était dans le coma à l'hôpital. Je lui ai parlé, je lui ai promis que justice sera faite, souffle sa maman, qui raconte, émue, deux larmes ont alors coulé sur ses joues. Dans le box des accusés, Mehdi Nemmouche écoute, imperturbable depuis le début du procès. Nous respectons la souffrance d'une mère, précise son avocat, Maître Courtois, mais nous prouverons que les victimes étaient des cibles. Ce n'est pas un attentat, répète la défense, qui, après avoir évoqué mardi le Mossad, affirme que le père d'Alexandre était fiché par la sûreté de l'État, ce qui mène vers l'Iran et le Hezbollah.
Angélique Bois en direct des assises de Bruxelles. Et puis 4 ans après les attentats de janvier 2015 à Paris, les magistrats avancent, les juges d'instruction antiterroristes ordonnent le renvoi aux assises de 14 personnes soupçonnées à divers degrés de soutien logistique aux auteurs des attaques contre Charlie Hebdo, mais aussi à Montrouge et contre l'hyper cachère de Vincennes. 17 morts en tout en janvier 2015. Environ 500 000 œuvres d'art sont déposées par les collections nationales dans les musées de France et les institutions françaises. 57 000 ont disparu au fil des années. Un nouveau rapport sur ce phénomène qui semble incroyable aux citoyens moyens est publié et son auteur est notre invité. Bonjour Jacques Sallois.
Bonjour.
Président de la commission interministérielle de recollement, ancien directeur des musées de France, ancien directeur de cabinet de Jack Lang au ministère de la Culture. Procédons par étapes. Les collections nationales, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Expliquez-nous d'abord ça pour qu'on comprenne le reste.
Je vais vous dire d'abord que nos auditeurs doivent être conscients qu'on a de grandes chances en France.
Bon, on commence par un paradoxe.
La première, c'est que nous sommes probablement le pays dans le monde qui a le plus grand nombre de collections nationales grâce à nos rois. Oui. Nos empereurs et aux républiques. Nous avons une dizaine de millions de collections nationales dans nos musées. Oui. Nous avons des centaines de milliers d'œuvres qui sont conservées par le Centre National des Arts Plastiques, qui est l'héritier de toutes les institutions qui ont commandé des œuvres aux artistes vivants. Nous avons des dizaines de milliers d'œuvres au Mobilier National et plusieurs centaines de milliers à la manufacture de Sèvres. Ce sont des œuvres inaliénables, imprescriptibles. Elles nous appartiennent.
À tous.
Et à tous. à nous tous. Et la deuxième grande chance, c'est qu'on a une Cour des comptes qui contrôle non seulement les comptes de l'État, les deniers publics, mais qui est sensible à l'usage que l'on fait des biens publics. Et c'est la rencontre de ces deux chances qui m'amène vers vous.
Très bien. Donc, 57 000 œuvres qui ont disparu, cela signifie quoi ? Les collections nationales prêtent ses œuvres au musée, prêtent ses œuvres au ministère, aux ambassades, à différentes institutions.
Elles ne les prêtent pas, elles les déposent.
Elles les déposent.
C'est-à-dire que le prêt, on le prête pour quelques expositions, pour quelques mois. Les dépôts, c'est beaucoup plus long.
D'accord.
Et quelquefois très long. Certains d'entre eux sont déposés depuis deux siècles.
Et alors,
deux siècles, c'est très long.
Quand vous travaillez avec Jacques Lang, Jacques Sallois, vous avez vu un conseiller partir avec un tableau de maître sous le bras, c'est comme
sans
ça que ça marche?
Sans doute pas, sans doute pas. Bon. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 20 ans,
oui,
nous récolons les dépôts d'œuvres d'art. C'est-à-dire que nous contrôlons la manière dont ils sont encore déposés dans tous les lieux divers où actuellement ils sont à la disposition du public. C'est ça qu'il faut retenir. Là encore, aucun pays n'a entrepris un tel recensement de l'ensemble des biens dont il dispose. Alors, qu'il y ait un certain nombre de biens disparus, comment s'en étonner ? D'abord, je voudrais...
Il faut les expliquer, pardon. Comment on explique ces disparitions ? C'est quoi ? C'est des vols ? Mais ce sont
d'abord,
des...
Je voudrais que vous évitiez de faire des amalgames. Je ne mets pas dans le même sac quatre assiettes disparues à Oulan-Bator et un vol d'un dépôt du Louvre au musée de Périgueux. Ça n'est pas la même chose. Donc évitons de faire des chiffres globaux. Vous n'en avez pas trouvé dans le rapport, car je suis très attentif à faire en sorte que l'on distingue bien les différentes situations.
Mais quelles sont ces différentes situations ? Il faut le dire.
Eh bien, dans les musées, les biens sont conservés avec des récollements périodiques des collections, des déposants et des dépositaires. Alors, on a effectivement des disparitions. On a eu des vols. On a eu un vol au musée de Toul, il y a quelques dizaines. On l'a retrouvé. Car en réalité, non seulement nous conservons, mais nous surveillons les disparitions. Et nous avons, avec les services de police, une coopération tout à fait extraordinaire. Vous parlez des œuvres disparues. Mais je pourrais aussi vous parler des œuvres retrouvées. Nous en retrouvons des dizaines. Nous avons retrouvé, en vente publique, des tableaux qui étaient dans une mairie. Un portrait de Napoléon III à la mairie de Thiers a été récupéré en vente publique à Paris. Un vase du musée de Vichy a été récupéré chez une brave dame qui l'avait acheté en toute bonne foi.
Donc il n'y a pas matière à s'inquiéter, c'est ce que vous nous dites ?
Il y a matière.
Le chiffre est frappant tout de même.
Il y a matière à être très sérieux et nous le sommes de plus en plus. Les taux de disparition ne peuvent pas être comparés. Il y a, disons, 10% dans les musées sur deux siècles, il n'y a pas de quoi non plus crier au drame. Les taux de disparition dans les ambassades, quand il s'agit de services de SEB, ça se casse et c'est plus élevé.
Il y a d'autres manières de lutter contre le phénomène ? Ce sera ma dernière question. Il y a une nouvelle politique, de nouvelles choses qui doivent être mises en place ou pas ?
Pour l'instant, continuons à récolter avec le sérieux qui est le nôtre. Ce que je voudrais surtout vous dire, c'est
que secondes.
La lumière faite sur le passé ne doit pas nous empêcher de soutenir cette politique de dépôt qui est un élément essentiel de notre politique culturelle.
Merci beaucoup Jacques Sallois d'être venu dans les studios de France Inter dans le domaine de la culture. La bonne idée du moment, cela se pratique peut-être dans l'établissement scolaire de votre enfant, vous qui nous écoutez. Silence, on lit. Un collège par exemple, plongé dans le silence, tout le monde lit, y compris les profs pendant un moment de la journée. L'établissement Cabanis à Brive teste ce moyen de donner le goût de la lecture. Le principal s'appelle Marc Bartoli.
Il fallait trouver une modalité pour pouvoir organiser le quotidien de 514 élèves, leurs 30 professeurs en simultané, la vie scolaire, etc. Pendant 15 jours, on enlève 3 minutes de cours sur chaque séance de cours, et puis les élèves lisent, et leurs professeurs, et les personnels lisent pendant 15 minutes. On peut lire des romans, des BD, des mangas, des revues spécialisées. On est dans une forme d'écriture longue. Le rituel est en train de s'installer de manière assez satisfaisante.
Ça arrive après la récré ? Est-ce que ça calme tout le monde ?
C'est un des effets qu'on n'avait pas en tête au départ, mais qui semble, oui, vraiment efficace.
Propos recueillis par Nicolas Blanza à propos de lecture. Vous pouvez aussi participer demain soir à la troisième nuit de la lecture. Café, librairie, musée, 2000 établissements ouvriront très tard. Le programme est sur le site nuitdelalecture.fr. Dans le domaine du cinéma, Robert Redford recevra le César d'honneur de la prochaine cérémonie des Césars. Ce sera le 22 février. L'Open d'Australie de tennis avec trois faits marquants cette nuit. La promenade de Federer, 6-2, 7-5, 6-2 face à Taylor Fritz. Chez les filles, élimination de la tenante du titre Caroline Wozniacki, battue par Maria Sharapova. Et puis l'élimination de la dernière française en lice, Caroline Garcia, 6-3, 6-2 pour l'américaine Danielle Collins. France Inter à Melbourne. Fabrice Abgral.
Caroline Garcia battue, humiliée, surclassée par Danielle Collins. Il n'aura fallu qu'une heure et trois minutes à l'américaine pour balayer la numéro 1 française, dépassée par la puissance et la vitesse d'exécution de son adversaire. Caroline Garcia a fait illusion durant les six premiers jeux avant de craquer littéralement. La lyonnaise n'a pas réussi à suivre le rythme infernal imprimé par Danielle Collins en état de grâce. L'américaine frappe fort, sans retenue, presque sans calculer, mettant à chaque fois beaucoup d'intensité dans toutes ses frappes de balle. Caroline Garcia a été étouffée, elle n'a jamais réussi à s'organiser et installer son tennis. Caroline Garcia est éliminée sans gloire, c'est la troisième fois d'affilée en Grand Chelem qu'il n'y a pas de Française en huitième de finale. Danielle Collins, elle, poursuit sa progression. Il y a un an, elle était 167e mondiale, elle est aujourd'hui 35e. Elle dispute à 25 ans son premier Open d'Australie, le 6e en Grand Chelem. Avant d'arriver à Melbourne, elle avait toujours été éliminée au premier tour des différents tournois majeurs qu'elle a joués. Là, elle a gagné 3 matchs et ce n'est peut-être pas terminé. Melbourne, Fabrice Abgral, France Inter.
Plus de Françaises chez les filles, chez les garçons, il reste Pouille et Herbert à cette Open d'Australie de tennis. En football, la 21e journée de Ligue 1 commence ce soir en ouverture Lille-Amiens à 20h45. L'histoire saisissante du moment pour terminer ce journal, une longue séance de nage avec un requin blanc. Fantasme ou cauchemar, en tout cas une courageuse vient de s'offrir ce luxe, un tantinet dangereux. Soit une équipe de plongeurs qui navigue au large du Mexique dans le Pacifique qui observe des requins tigres. Soudain, un requin blanc femelle arrive, tous les autres s'éparpillent. Le requin se frotte au bateau. Une des plongeuses de l'équipe se met à l'eau. La suite est racontée par Sébastien Baer.
L'animal n'avait plus été observé depuis 2015 à Guadeloupe, une zone de reproduction des requins blancs située au large des côtes mexicaines. Le colosse n'a pas pu être mesuré, mais d'après la plongeuse qui a passé plusieurs heures à ses côtés, l'animal mesurerait autour de 6 mètres et pèserait 2,5 tonnes. Des mensurations qui font de ce redoutable prédateur l'un des spécimens les plus imposants jamais signalés, assure Bernard Serret, spécialiste des requins et chercheur indépendant.
C'est une rencontre quand même, je dirais presque du troisième type, qui est quand même extraordinaire, c'est trois fois la taille d'un homme. Bon, moi j'ai plongé avec des requins, mais à travers une cage, plonger comme ça en pleine liberté avec un monstre de 7 mètres de long ou presque, c'est quelque chose quoi. On se sent petit, on se remet à sa place dans l'univers. Et il est dangereux à cause de sa taille, c'est-à-dire quand il mord, c'est souvent mortel. Mais il y a le requin bulldog, le requin tigre, surtout le requin bulldog qui à mon avis est plus dangereux que le requin blanc.
L'équipe de plongeurs estime que le requin blanc est âgé d'une 50aine d'années et que la femelle, étonnamment large d'après les observateurs, pourrait être en gestation. Plus proche de nous, des requins blancs ont été signalés dans le golfe de Gascogne et suivis grâce à des balises. Certains prédateurs ont parcouru 20 000 km, soit la distance entre la France et la Nouvelle-Zélande.
Avant la météo, le casting de ce journal de 13h cette semaine à la rédaction en chef, il y avait Virginie Pironon, Anaïs Feuga et Lionel Thompson, à la technique Tristan Gratalon et Loïc Frapsos. Merci également à Sylvain Lesage et Sébastien Donat.